5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Orion Chemin de l'espace, nous avons choisi de vous parler de la France. Et l'espace, la France et la conquête spatiale, c'est
la
bien
France,
ça
La France dans l'espace, sa place, on va dire, à côté des deux grands qui étaient l'URSS et les USA.
Alors justement, dans notre générique, on a choisi effectivement de vous faire entendre, de faire participer à un lancement d'Ariane avec ce 5, 4, 3, 2, 1... Action,
oui, hein,
pour ne pas dire zéro.
Voilà.
Mais ce compte à rebours ne date pas effectivement d'hier. La France est aujourd'hui un acteur présent
sur la France est très présente, notamment avec l'espace spatial européen.
Oui.
Mais elle a eu ses débuts dans les années 50, 60.
Alors, justement, parce qu'elle a aussi cette image d'un peu second rôle dans l'histoire de la conquête spatiale. Est-ce que c'est bien vrai, ça?
Eh bien, je ne dirais pas tout à fait, parce que si on va revenir un petit peu sur les précurseurs de l'astronautique. Au début du XXe siècle, les fusées, les aéroplanes étaient à leur balbutiement. Donc les deux types d'engins répondaient à la même mission, c'est-à-dire s'élever dans l'espace. Donc, et nous avons un Français, Robert Elnaud Peltery.
Alors ça, c'est à quelle époque?
C'est les années 30, on va dire. Donc il est né vers les années 1880 et quelques, je me souviens plus exactement sa date de naissance. Mais cet homme-là, donc, c'est un précurseur de l'astronautique. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage en 1935 qui s'appelait L'Astronautique.
Donc ça, c'est un Français.
C'est un Français.
Il y avait d'autres collègues dans
Alors,
le monde.
Alors, ce monsieur, Robert Elnaud Peltery, est notamment l'inventeur du marche à balai dans les avions. Hein, ça, il faut le préciser. Ça, c'est très important.
C'est une invention durable, ça sert toujours.
Voilà, ça sert toujours. Donc, à côté de lui, nous avez Robert Goddard aux États-Unis, donc qui fait des recherches sur les fusées et qui a déjà fait des fusées à étage, donc avec des carburants liquides. Hein, il étudiait déjà ça à cette époque-là. Vous avez donc Tsiolkovsky. Alors Tsiolkovsky, Constantin Tsiolkovsky, on ne peut pas l'éviter. Hein, c'est lui qui a dit cette célèbre phrase « La Terre est le berceau de l'humanité, mais l'homme ne veut pas passer sa vie éternellement dans son berceau. »
Dans son berceau.
Voilà.
C'est un homme, une citation donc, qu'on a déjà évoquée dans notre émission.
Tout à fait.
Donc, et puis d'autres aussi.
Oui, vous avez Hermann Oberth en Allemagne.
L'Allemand.
L'Allemand. Voilà, donc ça fait ces quatre hommes que nous devons citer, là, qui sont vraiment les pionniers du, on va dire, 19e, début du 20e siècle.
Alors nous sommes dans les années 30, Robert Elnaud Peltery est donc le leader français. Comment ça se passe autour de lui? Il y a des programmes, il est aidé. Quelles sont aussi ses recherches et ses inventions?
Alors donc, on a parlé du manche à balai. Donc il a aussi été le premier à faire un avion, je crois, avec une carcasse métallique. C'est les débuts. Hein. Donc parallèlement donc à l'aviation, il fait ses recherches sur les fusées. Il a donc dans son ouvrage L'Astronautique, il projette un petit peu ce que sera le futur dans l'espace. Donc il s'était pas beaucoup trompé non plus comme tous ses collègues hein, qui cherchaient dans le même thème. Hein. Donc il y avait la Société astronomique de France au début sur lesquels il faisait des recherches. Donc ils avaient une petite bourse, mais on peut dire que bon le pouvoir politique de l'époque n'était pas forcément convaincu de ses recherches.
Alors ça, c'est en France. Est-ce que
c'est en France.
Est-ce que les autres, aux USA, en Russie, en Allemagne,
oui, un petit, on peut dire oui, mais on peut, ça dépend. Il y a des hauts et des bas. Donc, pour l'instant, il faut ramener ça aussi aux militaires. Hein. Donc, on cherche aussi l'artillerie, avoir des canons à longue portée. Bon, si on a des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, on va parler des Krupp, la firme Krupp, hein, qui faisait ces gros canons. Voilà. Donc, on est plutôt dans l'artillerie. plutôt que d'aller chercher un engin balistique, on va dire, des premiers missiles. Hein.
Voilà. Donc ils ne se distinguent pas particulièrement des quatre autres, des trois autres.
Non, ils font leurs recherches, mais peut-être, on va dire, peut-être pas assez soutenus par les pouvoirs politiques.
Et ils échangent entre eux, comme aujourd'hui la.
Il y a quelques contacts, hein, mais bon, on n'a pas vraiment de documents qui établissent une collaboration intime.
On rappelle aussi qu'on est dans une période après-guerre et que plus on se rapproche de la guerre.
Oui, on est dans l'entre-deux-guerres.
Voilà. Hein,
oui.
Alors, après, nous sommes maintenant donc en pleine guerre, c'est la guerre de 39-45. Il y a effectivement un certain nombre d'avancées militaires, je pense en particulier au V2.
Alors, effectivement, donc, Hermann Oberth va travailler avec des ingénieurs donc sur la base de Peenemünde, donc en Allemagne. Il va travailler avec des cerveaux, dont un deviendra célèbre puisqu'il s'appelle Werner von Braun. Donc, ces gens-là vont commencer à faire des prototypes de fusées, mais on va dire de petits missiles balistiques, puisqu'on va passer de la fusée A1, A2, A3, A4, la V2 après.
Donc, dans l'histoire des fusées, c'est la première fois qu'apparaît ce concept de fusée.
Ce concept de fusée qui va pouvoir dépasser un petit peu l'atmosphère terrestre. Je crois que les V2 montaient une distance de 130 km et retomber, aller bombarder donc, la cible ennemie. Là, donc là, les Allemands vont développer une technologie particulière, éprouvée donc sur ces fameuses V2 et ces fameuses V2 qui vont devenir un petit peu les mères de toutes les fusées
à venir. Toutes les
fusées
du futur. Et pendant ce temps-là, donc en France, que se passe-t-il ?
Eh bien, en France, on a N.O. Pelterie donc qui a collaboré aussi avec le capitaine Barré, Jean-Jacques Barré, donc qui va faire des recherches de moteurs en 42 en zone libre. Va faire des essais du côté de Lyon sur des moteurs et sur le camp militaire du Larzac.
Donc Lyon, c'est la recherche.
Oui,
et le Larzac, c'est le terrain.
C'est le terrain pour être un petit peu éloigné discrètement de l'occupant allemand. Et donc ces recherches vont se solder par pratiquement que des échecs. Donc les départs de fusées se font, mais explosions systématiquement, donc échecs.
Et ce sont des fusées totalement différentes de ce qui se passe en Allemagne
Oui, les recherches sont... C'est surtout les EA, on les appelle les EA, c'est-à-dire engins autopropulsés. Voilà, on est sur cette base de recherche.
Donc nous sommes encore aux engins autopropulsés. L'Allemagne est déjà dans les fusées.
Et déjà on peut le dire comme ça.
Eh bien Jean-Michel, nous sortons de cette guerre 39-40, nous sommes en train de parler de la France, de la place de la France, la place, le rôle de la France dans la conquête spatiale. Nous sommes là après-guerre, que se passe-t-il ?
Alors nous sommes, on va dire, dans les années 50, la recherche spatiale constitue une préoccupation majeure des milieux politiques, scientifiques et bien sûr militaires. Donc on a créé en 58 le COSPAR, le Committee on Space Research. Parce que pourquoi en
58, c'est pas très français, ça.
C'est pas très français. Hein. Ça a été créé donc suite à l'année géophysique internationale. Donc tout ça parce qu'on a lancé déjà des satellites du côté russe, le premier Sputnik, et du côté américain aussi, donc Explorer. Donc on va lancer des satellites. Ces deux puissances lancent des satellites et il faut ben, un petit peu cadrer tout ça. Donc ce groupe scientifique international en relation avec l'exploration spatiale, c'est un premier pas, on va dire, vers la coopération Est-Ouest.
Alors, on s'est quitté sur une France qui avait du mal à lancer des fusées, hein, qui n'en était pas encore. Alors, c'est quand la première fusée?
Eh ben, c'est en 45 de Saint-Mandrier. Donc, une fusée qui montera pas très très haut, mais c'est la première, une petite réussite, on va dire.
Et donc, 45, ça veut dire que juste à la sortie de la guerre, la recherche avait quand même...
Voilà, donc à l'initiative donc, du capitaine Barré, donc et bien d'autres cerveaux qui vont travailler là. Et en 45, donc l'occupant nazi est vaincu et on va récupérer des cerveaux. Notamment, donc, quelques ingénieurs allemands vont être récupérés par les Français et vont venir travailler en France à Vernon. Donc, on va leur construire des petits baraquements pour travailler dans la recherche spatiale. Vernon, où on a fabriqué pendant longtemps des moteurs.
Vernon, dans l'heure.
Dans l'heure, oui. Voilà.
Donc, nous attaquons cette période, disons, de 45 à 58. Le général de Gaulle sort de la guerre, mais il n'est pas encore, effectivement, revenu aux affaires. Donc, entre 45 et 58, ce soit au plan militaire, d'abord, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui se
passent.
Alors,
vous citez le général de Gaulle, c'est important parce qu'on ne peut pas dissocier les prouesses, on va dire, spatiales, la recherche, sans les décisions politiques, les volontés politiques. Donc on sait que cette période un petit peu 45-58 a été un petit peu instable sur le plan français, hein, des successions de gouvernements. Donc c'est vrai qu'après ça suit dans tous les domaines. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 58, de Gaulle va revenir, la constitution de 58, et va réformer les institutions. Notamment, on se souvient de cette fameuse force de frappe voulue par le général. Donc, force de frappe, 10 missiles.
Qui arrivera bientôt, mais auparavant, il y a quand même tous ces essais qui se passent en Algérie, en Argentine, je crois aussi.
Alors, les fusées-sondes, donc ces fusées-sondes qui ne vont pas très très haut, sont des vols balistiques, mais il y a de la recherche. Alors, la France va, sur des rampes de lancement mobiles, faire des essais en Argentine. L'éclipse argentine, on parle souvent hein, dans les milieux donc, de la conquête spatiale française, sur les îles Kerguelen. On a même fait des petits essais sur Biscarros, hein, dans les Landes. Vous voyez, donc, il y a plusieurs zones qui sont là, précurseurs donc, de nos lancements spatiaux. Et bien sûr, la France va s'installer à Amaguir, dans le désert algérien.
Donc, et l'aboutissement, ça va être le lancement de ce premier satellite français.
Alors, on va faire...
Astérix.
Cocorico, 50 ans cette année, 26 novembre 65. Astérix va être lancé par une fusée Diamant.
La France et la conquête spatiale dans les années 60, Jean-Michel, il y a effectivement des programmes militaires comme on vient de le voir, notamment au plateau d'Albion.
Alors donc, on va développer les missiles balistiques au plateau d'Albion, ça c'est le côté militaire.
Et alors, au plan civil, là, il va se passer quand même beaucoup de choses.
Alors une date qui est très très importante, c'est le 19 décembre 1961, c'est la création du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Donc, organisme scientifique, public... donc qui aujourd'hui existe et vit bien, travaille beaucoup, puisqu'aujourd'hui il y a 2450 collaborateurs.
Alors à cette époque, ça se passe où? Quelles sont les principales recherches qui sont menées à ce moment-là? Le CNES est installé
Alors à Paris et puis après Toulouse.
Déjà, donc, puisque Toulouse était à cette époque-là devient un peu la ville de l'espace, la ville française de l'espace,
qui va devenir, qui va se construire autour de l'espace. Donc, mais c'est vrai qu'au début, la direction générale du CNES a été confiée à un général, le général Robert Aubinière. Donc, c'est un militaire.
Voilà. Ouais, le CNES a un père militaire et une mère civile, on peut dire ça. Et aujourd'hui, on le connaît beaucoup plus sur l'aspect civil.
Sur l'aspect civil, avec le lancement des satellites. Et bien sûr de nos réussites avec la participation à l'ESA, mais nous en parlerons après de l'ESA.
Alors, le CNES, il y a tout un tas d'expériences, en particulier les animaux, il y a un certain nombre de choses là, qui se passent.
Alors, il s'est passé beaucoup de choses à Amaguir, là-bas, parce qu'on en a lancé des fusées. Donc, il y a eu donc Véronique, Diamant, il y a eu toutes ces fusées. Donc, on a fait de nombreux échecs. Et puis, toutes ces fusées sondes qui vont nous permettre aussi de tester la place, pas de l'homme, mais de l'animal dans l'espace.
De la vie, en général.
Alors, si je vous parle d'Hector... Si je vous parle de Félicette, si je vous parle de Martine, si je vous parle de Pierrette, ça ne vous dit peut-être rien.
Ah là, ça me perturbe.
je vais vous parler cette petite chatte, Félicette, avec le rat Hector. Bien sûr, on ne les a pas lancés ensemble, ils n'ont pas joué au chat à la souris. Mais on les a lancés donc, avec des petits harnais donc dans la coiffe de la fusée, dans des espèces de confinement, d'appareils de confinement, pour voir comment un petit peu on réagissait, un être vivant allait pouvoir réagir dans l'espace. Alors, il existe une petite vidéo que je trouve très cruelle, qui a été mise en ligne par l'Institut National de l'Audiovisuel, sur la petite chatte Félicette, qu'on met dans sa boîte avec des capteurs qu'on lance dans l'espace. On entend cette petite chatte miauler. Voilà, ce sont des essais qui se faisaient à l'époque. Il faut savoir que les Russes travaillaient sur des chiens. Souvenez-vous de Laïka, elle est célèbre. Souvenez-vous que les Américains travaillaient sur des singes, Ham. Mais nous aussi, nous avons eu des singes, puisque nous avions eu Martine et nous avons Pierrette.
Voilà. Alors, tout ça se passe à Amaguir, c'est ça?
Tout ça se passe à Amaguir.
Alors, on rappelle que Amaguir est au sud de l'Algérie.
Voilà, dans le désert saharien.
Alors, au passage, une des raisons, c'est-à-dire au fur et à mesure où la conquête spatiale se développe, l'intérêt, c'est de se rapprocher de l'équateur.
Tout à fait.
Pour bénéficier de tout un tas de conditions favorables, pour sortir de la pesanteur.
Donc, on a eu l'occasion d'en parler sur de précédentes émissions.
Absolument. Hein. Donc là, on est toujours à Maguire, et c'était un pays qui convenait bien. Enfin, je veux dire, la base était tout à fait satisfaisante au point de vue scientifique.
Oui. Alors tout à fait, parce que nous sommes quand même restés à Amaguir jusqu'en 67, avant donc de se déplacer sur Kourou. Là, on est en plein dans la conquête spatiale française.
Entre-temps, c'est l'indépendance de l'Algérie.
On note que
Amaguir fonctionne après l'indépendance
de l'Algérie. Le pouvoir algérien a laissé donc la France terminer un petit peu ses essais, ses entreprises. Donc, puisque nous sommes en 67, où on va lancer une petite guenon, Martine, sur une fusée qui est dérivée des fusées allemandes A2, V2, puisque Véronique, c'est une fusée, comme les fusées Vesta, capable d'emmener cette guenon Martine pour un vol en apesanteur d'une vingtaine de minutes.
Donc là, ce sont des expériences purement françaises.
Voilà, c'était des expériences purement françaises. Et ce petit vol de Martine, c'était l'avant-dernier vol d'une fusée sonde depuis la base d'Amaguir.
le rôle, la place de la France dans la conquête spatiale, Jean-Michel. Alors on vient de balayer effectivement tout le début du XXe siècle. On a vu que la France faisait beaucoup de choses par elle-même. Et là, on va rentrer dans une période européenne, on peut dire. La France va trouver sa place.
Elle va trouver sa place avec Astérix, hein, parce que donc, les Russes ont lancé leur satellite, les Américains ont lancé leur satellite. Et nous, quand nous lançons Astérix, le 26 novembre 1965, on devient crédible.
Absolument.
On devient crédible parce que, donc, alors je vous rappelle une date précise, c'était le 26 novembre 65 à 14h47 minutes 41 secondes. Hein. Donc, un petit satellite qui faisait une quarantaine de kilos. Donc, 530 km de périgée et 1820 km d'apogée. Vous voyez cette ellipse un petit peu. On a été capable de lancer ce satellite. Donc, c'était. Ça y est, la France rentrait dans le concert des nations.
À partir de cet instant, effectivement, la France devient un acteur, l'acteur que l'on connaît aujourd'hui.
Validé notamment par les USA, parce qu'il y a eu un petit incident, c'est que la coiffe, au moment du déploiement, a endommagé les antennes. Donc, il y a eu des petits problèmes de transmission, mais quand même, ce satellite, comme on l'a dit, entre son apogée et son périgée, ça a très bien marché. Donc, ça a été validé. La France était la troisième puissance à lancer un satellite.
Alors, depuis 65 et Astérix, aujourd'hui, la France se lance, dans le cadre des programmes européens, elle n'est pas toute seule aujourd'hui, bien sûr, un certain nombre de fusées Ariane en particulier, dont le succès commercial ne se dément pas. Donc, quelles sont les étapes un peu significatives et surtout le rôle de la France dans cette progression ?
1967, la France quitte Amaguir. Donc, on recherche un endroit, comme vous l'avez dit, propice à être proche de l'équateur, donc pour pouvoir lancer nos fusées. Et le choix se porte tout naturellement sur la Guyane avec Kourou. Donc, c'est en 1973 que va commencer à émerger un petit peu l'idée d'une puissance spatiale européenne avec la création de l'ESA.
Alors, l'ESA, c'est ?
L'ESA, c'est l'espace spatial européen. Voilà. European Space Agency.
Voilà, hein. C'est ce que l'on voit sur toutes les fusées Ariane.
Vous avez ce sigle, voilà, ce sigle ESA qu'on voit partout, sur les documents, sur les satellites, etc. Donc, aujourd'hui, plus de 20 membres. Donc la France est quand même un des contributeurs principaux au fonctionnement de l'ESA. Donc qu'est-ce qu'on va faire Ariane ? Eh bien, en 1979, c'est le cadeau de Noël, le 24 décembre, on va lancer Ariane 1, donc première fusée, et vont suivre Ariane 1, 2, 3, 4 et 5. Aujourd'hui, nous sommes un lanceur Ariane 5 qui est efficace, qui a prouvé sa fiabilité, qui fonctionne bien. Donc on lance des satellites notamment pour nous, pour l'Europe, mais aussi pour des privés, pour d'autres États.
Alors Ariane, pour nos auditeurs, par rapport au panel des fusées existantes, on peut la situer en termes de taille, de puissance, de capacité à mettre sur orbite des masses
importantes ? Déjà, c'est une conception totalement différente. Elle a évolué. Si on parle des fusées Diamant, Véronique, on a une petite fusée à deux, trois étages. Chaque étage s'allume successivement. L'essentiel, c'était de sortir un petit peu des 100 km, aller au-delà donc de l'attraction terrestre, hein, d'avoir cette vitesse de libération pour lancer des fusées. Ariane, c'est vraiment un monument, 53 mètres de haut, Ariane 5. Donc, elle a plusieurs versions, hein, mais dans sa version la plus lourde, CA, on est capable de lancer plusieurs tonnes en orbite. Alors, soit en orbite relativement basse, c'est-à-dire 700-800 km, jusqu'à des orbites géostationnaires.
Est-ce que Ariane existerait s'il n'y avait pas eu l'histoire, la place, les efforts aussi, le talent peut-être français ?
Oui, la France a été un acteur principal, mais après, du moment où on collabore avec d'autres, on émet des idées, Marianne c'est un prénom, Véronique c'est un prénom, on reste dans la série des prénoms, hein. Donc, alors puisqu'on cite les prénoms, petite anecdote, le responsable des lancements au moment où on a lancé donc Astérix aimait pas trop tout ça, il préférait qu'on lance quelque chose, oui, ou quelque chose d'un petit peu plus noble, donc après il y a eu Diapason, il y a eu Diadème, voilà. Thank you.
La place de la France dans la conquête spatiale, donc on vient de parler d'Ariane, la fusée Ariane, qui est une fusée européenne, Ariane 1, 2, 3, 4, 5,
et 6.
Et la suite.
Et 6.
Et 6.
Puisque nous avons dans les cartons, donc Ariane 6, donc bien avancé, après le retard, parce que comme toujours, il y a du retard, et si retard il y a, il sera dû à des problèmes de financement.
Et la France est présente, en termes de financement, politiquement, elle est présente.
Elle est présente. Aujourd'hui, une puissance qui a accès à l'espace n'a pas envie de s'en retirer, c'est vraiment inconditionnel. C'est inconditionnel, donc ne serait-ce qu'avec toutes les applications civiles que nous connaissons, tous ces satellites qui nous gouverne, là, qui tourne au-dessus de nos têtes et qui nous apporte tout ce qu'on a besoin, de la météo à la télévision et plein d'autres choses dont on ne soupçonne pas l'origine.
Alors bon, la France n'est donc pas un acteur de second rôle, même si on a pu le croire à un certain moment. Elle est présente depuis le début, hein, on l'a vu. Yeah. Et puis aujourd'hui, plus que présente avec ses partenaires européens. Cette émission se termine, Jean-Michel. Quelques conseils de lecture peut-être ?
Alors, des conseils de lecture, je vais vous en donner. Je vais vous donner un site internet aussi qui s'appelle « Nos premières années dans l'espace ». Vous avez tout sur Amaguir, sur les fusées sondes, sur les expériences dont on a parlé, l'éclipse argentine, les Kerguelen, etc. Donc, vous avez ce site qui a été fait par des gens qui ont participé à cette aventure. Donc là, c'est les aventures, on va dire, après la guerre, hein, jusqu'à Kourou. Donc un site excessivement riche. Et puis c'est très très compliqué de s'intéresser un peu à la conquête spatiale française, notamment à tous les sigles, tous ces organismes, tous ces gens qui ont contribué. Donc c'est parfois un petit peu fastidieux à lire. Mais je vous présente un très bon livre qui est sorti cette année, qui s'appelle « L'aventure spatiale française » de Philippe Varnotto. Donc de 1945 à la naissance d'Ariane. Donc ça résume, nous avons résumé.
Ça développe notre
mais voilà, ça développe parce que et avec énormément de détails, donc tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et un livre un petit peu aussi un peu différent, c'est la naissance des fusées françaises, donc avant Ariane, c'est du V2 à Véronique, donc de Olivier Huart. Donc des livres qu'on trouve encore facilement, hein, et qui nous racontent cette expérience française.
Et puis un dernier conseil, c'est le site d'Orion.
Alors donc, régulièrement sur le site www.orion43.fr, là vous allez avoir une page spatiale où nous mettons donc en ligne régulièrement les événements principaux. On peut pas résumer toute l'activité spatiale, mais donc les principaux événements, lancement de fusée, donc qui se passe au-dessus de nos têtes. Et puis bien sûr, sur la page Orion donc 43.fr, vous avez des liens avec sur la Cité de l'Espace, sur le CNES, sur l'ESA, voilà. Allez visiter. Vous découvrirez.
Eh bien, merci Jean-Michel et à bientôt sur les ondes de RCF pour Orion, chemin de l'espace.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.